Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Des scènes de guerre en Iran, plus de 100 morts selon Amnesty International. Les autorités ont coupé Internet et semé la terreur pour assommer la révolte citoyenne. Précision dans un instant de Diane Berger. Élections locales à Hong Kong, de longues files d'attente devant les bureaux de vote. Le mouvement pro-démocratie avait promis de prendre part et massivement à ce scrutin. Dans un rapport publié aujourd'hui, Attaque, le syndicat solidaire et les Amis de la Terre tirent le portrait à Amazon, machine à surproduction et prédateur social. Information trompeuse selon le géant du commerce en ligne. Enfin, la face cachée du globe présentée ce dimanche par Nadine Epstein est consacrée aux peuples autochtones. Téhéran crie victoire, il est venu à bout d'un complot ourdi de l'étranger, rhétorique basique du régime iranien dont il ne se contente pas cette fois. Il sera question d'une véritable guerre mondiale contre le système selon l'un des dignitaires de la milice des Basiji. Une guerre, il semblerait que ce soit le terme exact, mais de quelle guerre faut-il parler? Il faut évoquer plutôt une féroce répression à l'abri des regards dont l'ampleur se précise d'heure en heure. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Diane, les vidéos et autres informations qui nous parviennent depuis une semaine en témoignent.
Amnesty International évoque un bilan d'au moins 115 morts vérifiés, mais l'Organisation de défense des droits de l'homme précise ce bilan est provisoire. Et d'après Azadeh Khian, sociologue franco-iranienne, auteur du livre La République islamique d'Iran, de la Maison du Guide à la Raison d'État, les chiffres pourraient tourner en fait autour des 200 victimes en quelques jours seulement. Un retour de bâton particulièrement violent et rapide contre des manifestants des classes populaires qui dénonçaient le triplement brutal du prix de l'essence.
Il y a eu une concomitance de luttes et de manifestations au Liban, en Irak et en Iran par les Iraniens pour contester la politique d'ingérence de la République islamique dans la région qui a des coûts financiers très importants pour l'Iran. Et les Iraniens se posent la question de savoir pourquoi ces revenus qui sont issus de pétrole ne sont pas utilisés pour le bien-être de la population, mais sont dépenser pour maintenir un certain nombre de groupes armés. Ça, je pense que ça fait craindre beaucoup le régime iranien et donc la raison pour laquelle, dès le départ des manifestations, ils ont décidé de réprimer dans le sang et raison pour laquelle ils ont tiré à balles réelles sur les manifestants.
Pour l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Ahmed Salamatian, si la répression est si violente, c'est parce que le pouvoir iranien veut maintenir son autorité sur les classes moyennes. Rester calme, leur priorité pour l'instant face aux émeutes récentes est la sécurité.
Cette classe accepte, ils vont avaler le couleuvre pour 5 mois, 6 mois, mais moi je suis sûr que la fréquentation des soubresauts sociaux, culturels, politiques de la société iranienne vont être de plus en plus fréquents jusqu'au moment où ce pouvoir archaïque n'arrive plus à satisfaire même ses propres ouailles. Chaque fois que le monde extérieur, par l'apport de l'Iran, a accepté le défi de l'ouverture, de communication des biens et des idées, à ce moment-là, cette classe moyenne se sent beaucoup plus sûre de lui-même pour pouvoir mener son combat pour arriver à un niveau de dépassement de l'islam politique. Et ce jour-là, je ne le vois pas loin.
Il y a 2 ans, les autorités iraniennes avaient déjà fait face à d'importantes contestations dans les classes populaires sur plusieurs semaines. Mais le bilan humain ne dépassait pas cette fois la 30aine de morts.
Merci à vous, Diane Berger. Comme le précisait il y a un instant Azadeh Khian, le régime iranien, inquiet des incandescences citoyennes dans sa zone d'influence, ne peut que constater que son voisin irakien vit des heures tourmentées en Irak, où le mouvement de désobéissance civile s'amplifie dans le sud, 6 morts, et ne perd aucune intensité à Bagdad. À Bagdad, où 2 manifestants ont été tués tôt ce matin à proximité du pont Oum Qasr. À Hong Kong, les militants et animateurs du mouvement pro-démocratie sont, semblerait-il, passés à l'acte civique. En d'autres termes, ils ont pris le chemin des urnes, celles des élections locales qui, jusque-là, ont porté au pouvoir dans les conseils de district des élus totalement alignés sur Pékin. À l'heure qu'il est, une certitude. Participation en nette, très nette hausse. Hong Kong, Dominique André.
Des files d'attente s'étirent devant les bureaux de vote, parfois pendant plus d'une heure, comme on le pressentait, les Hongkongais sont mobilisés pour ces élections locales. À la mi-journée à Hong Kong, un peu plus de 47% des électeurs avaient voté, soit trois fois plus qu'il y a quatre ans. Il fait nuit maintenant, les bureaux de vote fermeront à 22h30, heure locale, et il y a toujours du monde à voter. Beaucoup de jeunes candidats pro-démocratie sont en course pour ces élections qui serviront de baromètre pour indiquer quel est le niveau de popularité de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Après six mois de contestation, Carrie Lam fait l'objet de critiques continues, aussi bien chez les manifestants, mais aussi dans les milieux d'affaires. Des critiques montent sur son incapacité à gérer la crise. Ces élections locales qui servent à renouveler les conseillers des 18 districts du territoire semi-autonome ne changeront pas profondément la donne politique. Mais elles n'ont pas qu'une valeur symbolique. 6 sièges du Parlement local sont en jeu, ainsi que 117 places du collège électoral de 1200 personnes, qui est chargé de désigner le chef de l'exécutif local. Le mandat de Carrie Lam arrive à échéance en 2020. Une commission indépendante surveille ce scrutin sensible.
Au Chili, des scènes de pillage en banlieue de Santiago. Une banque a été prise d'assaut. Premières ébullitions il y a un mois à la faveur de l'augmentation du ticket de métro dans la capitale. Depuis, les contestataires ont noirci leur cahier de doléances. Amazon, le mauvais génie de la surconsommation, est dans le viseur des associations. Attaque, en partenariat avec les Amis de la Terre et l'Union syndicale solidaire, dévoile ce matin un rapport accablant sur les pratiques économiques, sociales et environnementales d'Amazon. Bilan carbone catastrophique, évasion fiscale et précarisation de l'emploi. Autant d'informations qualifiées de trompeuses en fin de matinée par le géant du commerce en ligne. Bonjour Alicia Miami.
Bonjour.
Alicia, ce rapport éprône Amazon et ce n'est pas anodin à quelques jours du Black Friday.
Le Black Friday, qui est prévu vendredi prochain, est arrivé en France il y a quelques années, pas forcément uniquement pour contenter les consommateurs. Car cet événement importé des États-Unis est certes l'occasion de profiter d'énormes promotions, mais c'est surtout un bon moyen, d'après Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque, d'importer et d'imposer un modèle économique reposant sur la prédation.
Le Black Friday, c'est d'abord le moyen privilégié pour Amazon de s'implanter en France. C'est-à-dire que ces dernières années, si elle a gagné en part de marché, c'est notamment à l'occasion de cette fête de la surconsommation qui est en fait importée par des multinationales américaines comme Amazon en France. Et avec ses promotions et un grand coup de publicité, ça a permis à Amazon d'accroître sa présence en France puisque de plus en plus de Français font leurs courses de Noël au moment du Black Friday en passant par des sites de e-commerce comme Amazon.
Ce Black Friday est donc bien un vendredi noir, estiment les auteurs de ce rapport, et il marque le début d'une période de travail toujours plus intense pour les employés d'Amazon.
Amazon recrute massivement entre la période du Black Friday et les périodes de Noël. Il n'est pas rare que dans les entrepôts, ils triplent la quantité de personnel, mais du coup, ce sont toujours des emplois d'intérimaires. Dans les agences de livraison, et bien, ce sont très souvent des gens qui ne sont pas sous contrat. C'est une forme d'ubérisation. C'est vrai qu'en cette période de fin d'année, Amazon recourt encore plus massivement que le reste de l'année au travail précaire.
Alors, pour contrer le géant mondial du e-commerce, Attaque veut faire réagir les consommateurs et appelle à des actions citoyennes partout en France pour perturber les actions d'Amazon. Plutôt que de commander en ligne, on peut par exemple en profiter pour redécouvrir les commerces de proximité.
Merci à vous, Alicia Miami. Le président de l'Assemblée nationale verse son obole au débat sur la réforme des retraites. Selon Richard Ferrand, l'appel à la grève le 5 décembre est une mobilisation pour conserver des inégalités. Fin de citation. Les partenaires sociaux, eux, seront reçus demain par le Premier ministre à Matignon. Des syndicats qui ne se font guère d'illusions au vu des annonces de ces derniers jours, alors que les ralliements à la grève se multiplient, le gouvernement, Annabelle Grelier, ne semble pas prêt à négocier.
Il y a une différence entre être entendu et être écouté, disent les syndicats. Une différence qui prend toute sa dimension sous le gouvernement Macron, tant les syndicats ont le sentiment d'être méprisés par l'exécutif depuis le début de son mandat. Au point que la CGT n'est même pas sûre de se présenter au rendez-vous, comme l'ont fait les syndicats de la RATP et de la SNCF il y a quelques jours. La CFDT dit pour sa part qu'elle ne jouera jamais la politique de la chaise vide et qu'elle s'y rendra pour réaffirmer son soutien à une réforme qui vise l'équité, mais s'opposer à toute mesure paramétrique qui vise une réforme budgétaire. Or, c'est bien le projet du gouvernement, annoncé en début de semaine par Édouard Philippe, puis réaffirmé quelques jours plus tard par Emmanuel Macron. Ramener le système à l'équilibre en 2025 passerait donc forcément par soit un rallongement de la durée de cotisation, soit par une mesure d'âge. Des mesures qu'aucun syndicat n'est prêt aujourd'hui à valider. Alors, qu'attendre de ces deux jours de concertation ? Peu de choses. Le risque est grand d'aboutir sur le même dialogue de sourds qui perdure depuis des mois. La menace d'une grande mobilisation pourrait-elle changer la donne ? Le gouvernement joue pour l'heure la fermeté. C'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui assure que la CGT ne joue pas le jeu de la démocratie sociale. C'est le président qui affirme que la grève du 5 décembre est celle des régimes spéciaux ou que cette grève est l'occasion pour les uns et les autres de créer le désordre. L'acte 2 du mandat Macron n'est de toute évidence pas placé sous le signe de l'apaisement.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Bien qu'ayant obtenu des droits internationaux depuis 2007 qui leur garantissent protection et liberté, les peuples autochtones et indigènes voient aujourd'hui leur vie et leur environnement menacés de disparition. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU fixe des normes pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde. Elle s'est renforcée en 2009 avec la défense des victimes. Or, la réalité de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se transforme chaque jour davantage en un combat contre la discrimination et l'élimination. C'est la vie que mène Rodrigo Mundaka. Depuis près de 10 ans au Chili, il se bat pour l'accès à l'eau, à la terre et pour les droits des agriculteurs. Les entreprises de l'agrobusiness volent, confisquent et s'emparent de l'indispensable et précieux bien commun et fondamental qu'est l'eau. Rodrigo Mundaka était de passage à Paris cette semaine pour recevoir le prix Daniel Mitterrand pour son engagement dans la défense des droits humains et les biens communs de vivants.
Par exemple, on a actuellement Alberto Curamil, qui est un chef mapuche qui actuellement se trouve en prison alors qu'il a reçu le prix Goldman 2019, simplement parce qu'il s'est battu contre deux projets qui allaient exploiter la terre et l'eau sur le territoire de sa tribu, la tribu mapuche. Donc on voit par cet exemple-là que simplement la défense de la ressource naturelle par les autochtones fait qu'ils finissent eux aussi par faire partie de cette lutte pour l'environnement. L'appropriation de l'eau et du territoire, c'est ce qui constitue les bases de l'inégalité au Chili. Écoutez, je serai traîné devant les tribunaux 24 fois. J'ai été condamné simplement parce que je défendais la nature. J'ai été agressé. Je suis sous menace de mort depuis 2017. Et puis le 1er novembre 2019, on s'est aperçu que j'étais aussi une personne d'intérêt pour les renseignements de la police. Mais je ne suis pas le seul. J'ai d'autres compagnons et puis d'autres compagnes de lutte qui se sont retrouvés dans la même situation. Actuellement, il y en a certains ou certaines qui ont dû partir du pays parce qu'ils ont été agressés, parce qu'ils ont été torturés, parce qu'ils ont été menacés. Donc on est là face à une conduite généralisée pour tous les activistes qui essayent de protéger l'environnement.
Et fondamentalement, silencier la lucha por los derechos humanos ambientales.
Les peuples indiens du Brésil, notamment au nord-est, qui vivent en Amazonie, sont eux aussi victimes d'exploitations agricoles et minières qui fleurissent. Eux aussi paient très cher la défense de leurs droits. Plusieurs dirigeants de communautés ont été assassinés. François Cantier, d'Avocats sans frontières, revient d'une mission d'un mois en Amazonie.
Un chef indien, Wayapi, a été tué fin juillet dernier. La police a dit c'est un accident. Et là, nous avons mené une enquête. Et il ne s'agit pas d'un décès naturel, il s'agit véritablement d'un meurtre ou d'un assassinat. Là, ce chef Wayapi, c'est quelqu'un qui était à la tête de son groupe, un groupe qui était menacé par la présence grandissante d'étrangers. Ils appellent des envahisseurs, notamment des Garimpeiros, des chercheurs d'or, qui viennent là, qui détruisent la nature dans laquelle ils vivent, dont ils vivent, et ils ont protesté contre cette présence. Nous pensons que ce meurtre est lié à cette protestation.
Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la défense des droits fondamentaux des peuples autochtones est liée à la défense des droits écologiques ?
Ici, ces populations amérindiennes sont les meilleurs garants de cet équilibre écologique. Et ils sont les premières victimes parce que ce sont des gêneurs, il faut les chasser. Ils sont, par hypothèse, isolés, fragiles.
Ils vivent hors du monde moderne.
Ils vivent complètement hors du monde moderne. Et lorsqu'ils sont agressés, ils n'ont pas de moyens sérieux de se défendre ou d'appeler au secours. Et il y a les menaces. Et puis là, il y a une étape supplémentaire. On tue. Avec le nouveau président Bolsonaro, qui laisse la porte ouverte aux fazenderos, qui veulent créer de grandes exploitations. Bon, grâce à des permis d'exploitation minière qui sont délivrés en contravention avec des engagements sur la protection de leur territoire, ces menaces ne cessent de s'accroître. Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est que ces populations disparaissent.
Après l'Amérique latine, l'Inde, où les vies de millions de personnes autochtones et tribales qui habitent dans la forêt sont aussi en danger. Le gouvernement indien a envisagé d'élargir les pouvoirs des gardes de
forestier, prévoyant notamment de les armer, ce qui leur permettrait de bénéficier d'une quasi-immunité contre toute poursuite et donc de tuer des gens sans aucune sanction. Grâce à leur mobilisation soutenue par l'ONG Survival, les peuples autochtones ont obtenu victoire et l'abandon de cette loi forestière qui les aurait expulsés de leur cadre de vie.
Merci à vous, Nadine Epstein. Ainsi se referme la face cachée du globe. Les corps de deux personnes découverts ce matin dans le Var, département touché par de violentes intempéries depuis vendredi. Météo France promet une amélioration progressive aujourd'hui et un temps nuageux, très nuageux sur le reste du pays. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique Jordan Fuentes.